Chesnel, posté dans l'antichambre, recommandait à chaque arrivant le plus profond silence sur la grande affaire, afin que le vénérable marquis n'en sût jamais rien. Le loyal Franc était capable de tuer son fils ou de tuer du Croisier. Dans cette circonstance, il lui aurait fallu un criminel d'un côté ou de l'autre. Par un singulier hasard, le marquis, heureux du retour de son fils à Paris, parla plus qu'à l'ordinaire de Victurnien. Victurnien allait être placé bientôt par le roi s'occupait enfin des d'Esgrignon. Chacun, la mort dans l'âme, exaltait la bonne conduite de Victurnien. Mademoiselle Armande préparait les voies à la soudaine apparition de son neveu, en disant à son frère que Victurnien viendrait sans doute les voir et qu'il devait être en route. « Bah !» dit le marquis debout devant sa cheminée, « s'il fait bien ses affaires là où il est, il doit y rester et ne pas songer à la joie que son vieux père aurait à le voir. Le service du roi avant tout !» La plupart de ceux qui entendirent cette phrase frissonnèrent. Le procès pouvait livrer l'épaule d'un d'Esgrignon au fer du bourreau. Il y eut un moment d'affreux silence. La vieille marquise de Catéran ne put retenir une larme qu'elle versa sur son rouge en détournant la tête. Le lendemain à midi, par un temps superbe, toute la population en rumeur était dispersée par groupes dans la rue qui traversait la ville, et il n'y était question que de la grande affaire. Le jeune comte était-il ou n'était-il pas en prison? En ce moment, on aperçut le tilbury bien connu du comte d'Esgrignon, descendant par le haut de la rue Saint-Blaise et venant de la préfecture. Ce tilbury était mené par le comte, accompagné d'un charmant jeune homme inconnu, tous deux gais, riant, causant, ayant des roses du Bengale à la boutonnière. Ce fut un de ces coups de théâtre qu'il est impossible de décrire. À 10 heures, un jugement de non-lieu, parfaitement motivé, avait rendu la liberté au jeune comte. Du Croisier y fut foudroyé par un attendu qui réservait au comte d'Esgrignon ses droits pour le poursuivre en calomnie. Le vieux Chesnel remontait, comme par hasard, la grande rue, et disait à qui voulait l'entendre que Du Croisier avait tendu le plus infâme des pièges à l'honneur de la maison d'Esgrignon, et que, s'il n'était pas poursuivi comme calomniateur, il devait cette condescendance à la noblesse de sentiment qui animait les d'Esgrignon. Le soir de cette fameuse journée, après le coucher du marquis d'Esgrignon, le jeune comte, mademoiselle Armande et le beau petit page qui allait repartir se trouvèrent seuls avec le chevalier, à qui l'on ne put cacher le sexe de ce charmant cavalier et qui fut le seul dans la ville, hormis les trois juges et madame Camusot, de qui la présence de la duchesse fut connue. « La maison d'Esgrignon est sauvée, dit Chesnel, mais elle ne se relèvera pas de ce choc d'ici à 100 ans. » Il faut maintenant payer les dettes, et vous ne pouvez plus, monsieur le comte, faire autre chose que vous marier avec une héritière. Et la prendre où elle sera, dit la duchesse. Une seconde mésalliance, s'écria mademoiselle Armande. La duchesse se mit à rire. Il vaut mieux se marier que de mourir, dit-elle, en sortant de la poche de son gilet un petit flacon donné par l'apothicaire du château des Tuileries. Mademoiselle Armande fit un geste d'effroi, le vieux Chesnel prit la main de la belle maufrigneuse et la lui baisa sans permission. « Vous êtes donc fou ici, reprit la duchesse. Vous voulez donc rester au 15e siècle quand nous sommes au 19e ? Mes chers enfants, il n'y a plus de noblesse, il n'y a plus que de l'aristocratie. Le code civil de Napoléon a tué les parchemins, comme le canon avait déjà tué la féodalité. Vous serez bien plus noble que vous ne l'êtes quand vous aurez de l'argent. Épousez qui vous voudrez, Victurnien. Vous anoblirez votre femme. Voilà le plus solide des privilèges qui restent à la noblesse française. » Monsieur de Talleyrand n'a-t-il pas épousé Madame Grand sans se compromettre? Souvenez-vous de Louis XIV, marié à la veuve Scarron. Il ne l'avait pas épousée pour son argent, dit Mademoiselle Armande. Recevriez-vous la comtesse d'Esgrignon si c'était la nièce d'un du Croisier, dit Chesnel? Peut-être, répondit la duchesse, mais le roi, sans aucun doute, la verrait avec plaisir. Vous ne savez donc pas ce qui se passe, dit-elle, en voyant l'étonnement peint sur tous les visages. Victurnien est venu à Paris, il sait comment y vont les choses. Nous étions plus puissants sous Napoléon. Victurnien, épousez mademoiselle Duval. Épousez qui vous voudrez. Elle sera marquise d'Esgrignon, tout aussi bien que je suis duchesse de Maufrigneuse. Tout est perdu, même l'honneur, dit le chevalier en faisant un geste. Adieu, Victurnien, dit la duchesse en l'embrassant au front. Nous ne nous verrons plus. Ce que vous avez de mieux à faire est de vivre sur vos terres. L'air de Paris ne vous vaut rien. Diane, cria le jeune comte au désespoir. « Monsieur, vous vous oubliez étrangement, dit froidement la duchesse, en quittant son rôle d'homme et de maîtresse, et redevenant non seulement ange, mais encore duchesse, non seulement duchesse, mais la Célimène de Molière. » La duchesse de Maufrigneuse salua dignement ces quatre personnages et obtint du chevalier la dernière larme d'admiration qu'il eut au service du beau sexe. « Comme elle ressemble à la princesse Goritza !» s'écria-t-il à voix basse. Diane avait disparu. Le fouet du postillon disait à Victurnien que le beau roman de sa première passion était fini. En danger, Diane avait encore pu voir dans le jeune comte son amant, mais sauvé, la duchesse le méprisait comme un homme faible qu'il était. 6 mois après, Camusot fut nommé juge suppléant à Paris et plus tard juge d'instruction. Michu devint procureur du roi. Le bonhomme Blondet passa conseiller à la cour royale, y resta le temps nécessaire pour prendre sa retraite et revint habiter sa jolie petite maison. Joseph Blondet eut le siège de son père au tribunal pour le reste de ses jours, mais sans aucune chance d'avancement, et fut l'époux de Mademoiselle Blandureau, qui s'ennuie aujourd'hui dans cette maison de briques et de fleurs autant qu'une carpe dans un bassin de marbre. Enfin Michu, Camusot, reçurent la croix de la Légion d'honneur et le vieux Blondet reçut celle d'officier. Quant au premier substitut du procureur du roi, M. Sauvager, il fut envoyé en Corse au grand contentement de Ducroisier, qui, certes, ne voulait pas lui donner sa nièce. Ducroisier, stimulé par le président du Ronceret, appela du jugement de non-lieu en cour royale et perdit. Dans tout le département, les libéraux soutinrent que le petit d'Esgrignon avait commis un faux. Les royalistes, de leur côté, racontèrent les horribles trames que la vengeance avait fait ourdir à l'infâme Ducroisier. Un duel eut lieu entre Ducroisier et Victurnien. Le hasard des armes fut pour l'ancien fournisseur, qui blessa dangereusement le jeune comte et maintint ses dires. La lutte entre les deux parties fut encore envenimée par cette affaire que les libéraux remettaient sur le tapis à tout propos. Ducroisier, toujours repoussé aux élections, ne voyait aucune chance de faire épouser sa nièce au jeune comte, surtout après son duel. 1 mois après la confirmation du jugement en cour royale, Chesnel, épuisé par cette lutte horrible où ses forces morales et physiques furent ébranlées, mourut dans son triomphe comme un vieux chien fidèle qui a reçu les défenses d'un marcassin dans le ventre. Il mourut aussi heureux qu'il pouvait l'être, en laissant la maison quasi ruinée et le jeune homme dans la misère, perdu d'ennui, sans aucune chance d'établissement. Cette cruelle pensée, jointe à son abattement, acheva sans doute le pauvre vieillard. Au milieu de tant de ruines, accablé par tant de chagrins, il reçut une grande consolation. Le vieux marquis, sollicité par sa sœur, lui rendit toute son amitié. Ce grand personnage vint dans la petite maison de la rue du Bercail. Il s'assit au chevet du lit de son vieux serviteur, dont tous les sacrifices lui étaient inconnus. Chesnel se dressa sur son séant et récita le cantique de Siméon. Le marquis lui permit de se faire enterrer dans la chapelle du château, le corps en travers et au bas de la fosse où ce quasi-dernier d'Esgrignon devait reposer lui-même. Ainsi mourut l'un des derniers représentants de cette belle et grande domesticité, mot que l'on prend souvent en mauvaise part et auquel nous donnons ici sa signification réelle en lui faisant exprimer l'attachement féodal du serviteur au maître. Ce sentiment, qui n'existait plus qu'au fond de la province et chez quelques vieux serviteurs de la royauté, honorait également et la noblesse qui inspirait de semblables affections et la bourgeoisie qui les concevait. Ce noble et magnifique dévouement est impossible aujourd'hui. Les maisons nobles n'ont plus de serviteurs, de même qu'il n'y a plus de rois de France, ni de pères héréditaires, ni de biens immuablement fixés dans les maisons historiques pour en perpétuer les splendeurs nationales. Chesnel n'était pas seulement un de ces grands hommes inconnus de la vie privée, il était donc aussi une grande chose. La continuité de ses sacrifices ne lui donne-t-elle pas je ne sais quoi de grave et de sublime? Ne dépasse-t-elle pas l'héroïsme de la bienfaisance, qui est toujours un effort momentané? La vertu de Chesnel appartient essentiellement aux classes placées entre les misères du peuple et les grandeurs de l'aristocratie, et qui peuvent unir ainsi les modestes vertus du bourgeois aux sublimes pensées du noble en les éclairant au flambeau d'une solide instruction. Victurnien, jugé défavorablement à la cour, n'y pouvait plus trouver ni fille riche, ni emploi. Le roi se refusa constamment à donner la pairie aux d'Esgrignon, seule faveur qui put tirer Victurnien de la misère. Du vivant de son père, il était impossible de marier le jeune comte avec une héritière bourgeoise. Il dut vivre mesquinement, dans la maison paternelle, avec les souvenirs de ses 2 années de splendeur parisienne et d'amour aristocratique. Triste et morne, il végétait entre son père au désespoir, qui attribuait à une maladie de langueur l'état où il voyait son fils, et sa tante dévorée de chagrin. Chesnel n'était plus là. Le marquis mourut en 1830, après avoir vu le roi Charles X passant à Nonancourt, où ce grand d'Esgrignon alla, suivi de la noblesse valide du cabinet des antiques, lui rendre ses devoirs et se joindre au maigre cortège de la monarchie vaincue. Acte de courage qui semblera tout simple aujourd'hui, mais que l'enthousiasme de la révolte rendit alors sublime. Les Gaulois triomphent, furent le dernier mot du marquis. La victoire de Ducroisier fut alors complète, car le nouveau marquis d'Esgrignon, 8 jours après la mort de son vieux père, accepta Mademoiselle Duval pour femme. Elle avait 3 millions de dot, Ducroisier et sa femme assuraient leur fortune à Mademoiselle Duval au contrat. Ducroisier dit, pendant la cérémonie du mariage, que la maison d'Esgrignon était la plus honorable de toutes les maisons nobles de France. « Vous voyez tous les hivers le marquis d'Esgrignon, qui doit réunir un jour plus de 100 000 écus de rente, à Paris, où il mène la joyeuse vie des garçons, n'ayant plus de grand seigneur d'autrefois que son indifférence pour sa femme, de laquelle il n'a nul souci. » Quant à Mademoiselle d'Esgrignon, disait Émile Blondet, à qui l'on doit les détails de cette aventure, si elle ne ressemble plus à la céleste figure entrevue pendant mon enfance, elle est certes, à 67 ans, la plus douloureuse et la plus intéressante figure du cabinet des antiques où elle trône encore. Je l'ai vue au dernier voyage que je fis dans mon pays pour y aller chercher les papiers nécessaires à mon mariage. Quand mon père apprit qui j'épousais, il demeura stupéfait. Il ne retrouva la parole qu'au moment où je lui dis que j'étais préfet. « Tu es né préfet, » me répondit-il en souriant. En faisant un tour par la ville, je rencontrai Mademoiselle Armande, qui m'apparut plus grande que jamais. Il m'a semblé voir Marius sur les ruines de Carthage. Ne survit-elle pas à ses religions, à ses croyances détruites? Elle ne croit plus qu'en Dieu. Habituellement triste, muette, elle ne conserve de son ancienne beauté que des yeux d'un éclat surnaturel. Quand je l'ai vue allant à la messe, son livre à la main, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'elle demande à Dieu de la retirer de ce monde. Juillet 1837.